Il est 18h à Niamey et partout au Niger. Nous sommes vendredi 15 mai au micro Diallo Maria Makenda. Bienvenue au journal en français. Bonsoir à tous. Au sommaire de ce journal, rencontre hier entre le ministre de l'enseignement primaire et les acteurs de l'éducation pour discuter des conditions de la reprise des cours prévus pour le 1er juin prochain. Réaction des enseignants dans ce journal. Lancement de la compétition Corona Hackathon, un concours en ligne lancé par l'Agence nationale pour la société de l'information ce matin à Niamey. Les explications d'Abdou Karim, membre de l'équipe de l'organisation. Et dans la partie magazine de ce soir, zoom sur les femmes vulnérables qui semblent avoir été oubliées dans la lutte contre le Covid-19 au Niger. Rencontre hier à Niamey entre les syndicats du domaine éducatif et le ministre de l'enseignement primaire. L'objectif est d'échanger sur les conditions de la reprise des cours prévus pour le 1er juin prochain. Pour le secrétaire chargé de l'information de l'unité syndicale des enseignants contractuels de base, les obstacles sont nombreux à la bonne reprise de l'école. Abbas Jibo, au micro de Rukayatou Abdourahman.
Déjà, vous savez, la majorité des enseignants sont rentrés chez eux. Le ministre a demandé à ce que chaque enseignant doit être à son poste avant le 25. Avec l'isolement de la ville de Niamey, ce serait pratiquement impossible. Même si l'État envisage d'ouvrir les voies, c'est peut-être à partir du 1er juin. D'autres obstacles aussi sur le terrain. 45 jours, ce serait très difficile techniquement de boucler le programme. Donc justement, c'est pour pallier à ce problème que le programme a été un peu modifié. Donc du CI au CE2, et on va enseigner que le français et la mathématique. Maintenant, pour le CM, donc, il y aura les autres discipline. Il y a aussi les obstacles naturels. Du 1er juin au 15 juillet, nous sommes en pleine saison pluvieuse. Dans les villages, il n'y a pas que les classes en période qui causent problème. C'est la présence de ces élèves même. Les parents n'accepteront pas à ce que ces enfants viennent à l'école alors que les travaux champêtres sont là.
Dans la région de Dosso, les habitants de Gaya crient leur ras-le-bol. En effet, depuis le début du Ramadan, les nombreuses coupures d'eau plongent plusieurs quartiers de la dite ville dans une pénurie d'eau potable. Écoutons le cri de cœur de certains d'entre eux au micro de Fadel Alou.
À Gaya, il ne faut même pas parler de difficultés pour s'approvisionner en eau. C'est tout simplement une pénurie totale. Même si l'alimentation est ouverte, vous allez constater des monicules noirs dans l'eau. Mais aussi, l'on fait 3 jours, 4 jours sans eau potable. Pourtant, nous payons cette eau.
Il faut que nous prenions notre mal en patience, car la situation fait pitié. Regarde une ville comme Gaya, qui pour trouver de l'eau à boire, c'est comme avoir de l'or. C'est la soif qui disperse la population d'une ville. Regarde, en sortant de la ville, jusqu'à l'autre côté de la colline, les gens sont avec des bidons, des tasses, à la recherche de l'eau. Nous sommes arrivés à bout. On n'a ni électricité, ni eau. On se remet à Dieu.
Nous n'avons même pas d'eau. En tout cas, dans mon quartier, il faut te réveiller à 4h du matin, tu as 1 heure de temps et puis ça disparaît. Maintenant, pratiquement, tu fais 2 jours, 3 jours, matin, soir, tu n'as pas d'eau.
Les vendeurs des fruits d'Agadez utilisent de plus en plus une substance chimique appelée carbure de calcium pour accélérer le mûrissement des fruits. Selon le directeur régional de la protection des végétaux, cela peut porter atteinte à la santé humaine. Kizawa Amoumoun au micro d'Anissi Karim.
Généralement, beaucoup de gens utilisent des produits qui sont fabriqués. Il s'agit du carbure de calcium utilisé sur les fruits pour les mûrir. Et le procédé, c'est des pierres qui, en contact de l'humidité, produisent un gaz, l'acétylène. C'est ce gaz-là maintenant qui fait mûrir les fruits. Effectivement, ce gaz, il est dangereux, inflammable. C'est un gaz même qui est utilisé pour les gens qui font de la soudure, le connaissent. À part même ce gaz, il y a d'autres gaz qui sont produits. C'est des gaz qui, à contact, peuvent provoquer effectivement des malaises par rapport à la santé des utilisateurs, avant même des consommateurs. Donc ces gaz peuvent provoquer effectivement des malaises, des maux de tête, des diarrhées, même du cancer. C'est cancérogène. Une fois que ces dépôts restent au niveau de ces fruits, tout celui qui consomme ces fruits peut avoir des problèmes de ce genre.
Une patrouille du contingent nigérien de la mission des Nations Unies pour la stabilisation du Mali, MINUSMA, a été attaqué le mercredi dernier à Meinaka, en territoire malien. Olivier Salgado, porte-parole de la MINUSMA citée par Actu Niger, rapporte, je cite, « C'est une patrouille nocturne du contingent nigérien de la force onusienne qui a été confrontée à une attaque complexe et un véhicule blindé a d'abord heurté un engin explosif improvisé et la patrouille a essuyé par la suite des tirs directs. Les castes bleus ont riposté, obligeant les assaillants à prendre la fuite avant d'ajouter que les informations préliminaires indiquent que 3 soldats de la paix ont été gravement blessés tandis que le véhicule a subi des dommages. » Fin de citation. 876 patients positifs ont été confirmés au COVID-19 au Niger, selon les résultats des examens virologiques à la date du 14 mai sur les 3715 personnes testées. Parmi ces cas, 149 sont en cours de traitement, 677 guéris et 50 décès selon un communiqué du ministère de la Santé publique en date d'hier. Ce jeudi, 16 nouveaux cas ont été confirmés, dont 2 de Niamey, 9 de Zinder et 5 d'Agadez ont été déclarés sur les 81 tests réalisés, souligne le communiqué. L'Agence nationale pour la société de l'information a lancé le Corona Hackathon ce matin à Niamey. Selon les organisateurs, il s'agit d'un concours en ligne grâce auquel les candidats en compétition pourront proposer des solutions pour une meilleure gestion du coronavirus. Abdul Karim, membre de l'équipe d'organisation, explique au micro d'Olivier Assoubavi.
C'est le challenge qu'on a mis en place pour trouver des solutions innovantes, tech ou pas tech, peu importe le domaine, de tous ceux qui veulent ou voudront pour faire face à la lutte contre le Covid-19. Permettre aux différents confinés ou à ceux qui sont malades ou aux gens d'éviter d'être en contact avec le virus. En fait, tout celui qui a quelque chose à promouvoir ou à proposer contre le virus.
Quelles sont les mesures pour éviter le regroupement de personnes dans l'organisation de cette compétition?
C'est d'où l'essence même du Corona Hackathon, qui est 100% en ligne. Tout se faire en ligne. Les participants, pareil, s'inscrivent en ligne. Ils ont une plateforme à disposition, avec des codes à disposition, toute une équipe pour pouvoir les suivre au fil de l'évolution de la solution. Tu peux être à Agadez, tu peux être à Difa, tu peux être de l'autre côté du monde.
Alors, pour participer au Corona Hackathon, qu'est-ce qu'il faut avoir?
Tout simple, il suffit juste d'avoir un téléphone ou un ordinateur. Avec une connexion.
Le gouverneur de Maradi, Zakari Oumarou, a rencontré hier les associations islamiques et chrétiennes pour une vulgarisation des gestes barrières contre le Covid-19 dans les mosquées et les églises. Cette rencontre fait suite à l'annonce de la levée de l'interdiction des prières dans les lieux de culte. Pour Oustaz Abdou Saleh de l'Agence des musulmans de Maradi, cette rencontre a été riche en enseignements et il est de leur devoir de respecter et faire respecter ces mesures. Il est au micro de Mohamed Maman.
Il est permis de célébrer ses prières, mais aussi les différents dispositifs doivent être respectés. Je crois que nous devrons encourager ces dispositifs afin de permettre aux uns et aux autres de maintenir le cap. Nous avons ce qu'on appelle le système de Agaji. Ceux-là qui sont des volontaires, je crois qu'on doit les mettre à profit afin de contrôler les entrées et les sorties au niveau des mosquées. Heureusement que toutes les mosquées maintenant sont organisées. Qu'est-ce que ça coûte d'acheter ce petit matériel pour le lavage des mains? C'est très facile. D'autres même peuvent contribuer au niveau des bavettes. Déjà, le gouvernement nous a appris que des tailleurs sont en charge maintenant de les confectionner. L'État va essayer de les vendre à 100 francs seulement. Et il a été proposé au cours de cette réunion de faire un point de vente, même au niveau des mosquées et des églises.
Polémique sur les effets secondaires de la chloroquine dans le protocole de traitement du coronavirus. Pour professeur Eric Kadioussi, expert membre du comité COVID-19 du Niger, ces effets secondaires doivent être minimisés dans le cadre de ce traitement. Professeur Eric Kadioussi, membre du comité COVID-19, on l'écoute.
La chloroquine a des effets secondaires qui sont connus, notamment sur le cœur. Ça peut ralentir ce que nous on appelle dans le jargon la conduction cardiaque, mais qui n'est pas fréquent. Parce qu'il faut savoir qu'on classe les effets secondaires selon leur gravité et selon leur fréquence. Et pour détecter cet effet secondaire, il y a un examen très simple qu'on fait, qu'on appelle un électrocardiogramme. Dans notre protocole, toute personne de plus de 50 ans doit bénéficier donc de cet électrocardiogramme. Maintenant, il y a d'autres effets secondaires dont on ne parle pas beaucoup. Il y a des effets secondaires sur la vision, notamment des atteintes rétiniennes. Elles se voient quand on donne le médicament sur une très longue période. Or, ici, en l'occurrence, si on doit donner la chloroquine, c'est pour 10 jours. Donc, il y a très peu de risques par rapport à ces effets secondaires.
Ma chérie, qu'est-ce qui t'arrive? Je te trouve très soucieuse.
Donc tu n'as pas entendu la nouvelle?
Mais c'est quoi cette nouvelle qui t'angoisse tant?
La maladie là qui fait des ravages dans le monde entier, elle est venue chez nous.
Tu parles de coronavirus?
Mais oui.
C'est vrai, la maladie, elle est bel et bien arrivée chez nous. Mais tu ignores qu'on peut bien se prévenir?
C'est une bonne nouvelle. En faisant comment?
Eh oui, les spécialistes de la santé conseillent de vous laver régulièrement les mains à l'eau et au savon ou les désinfecter avec un gel hydroalcoolique. Éternuez ou toussez dans les creux de votre coude, puis lavez-vous les mains à l'eau et au savon. Il faut garder au moins un mètre de distance entre vous et les autres personnes. Évitez de toucher les yeux, le nez et la bouche. Évitez tout contact direct avec les animaux vivants. Et si cela est impossible, lavez-vous les mains après le contact. Il faut bien cuire les aliments avant de les manger. Nettoyez les surfaces et les ustensiles après usage. Il faut éviter les déplacements non essentiels et éviter aussi tout regroupement.
Tout? Et le mariage de ma fille?
Eh ma chérie, pense à ta santé et à celle de ta famille.
Je te remercie beaucoup pour cette nouvelle que je vais d'ailleurs partager avec toutes les voisines.
Ceci est un message du studio Kalangou en collaboration avec le ministère de la Santé publique du Niger.
La partie magazine de ce journal à présent, pour faire face à la pandémie du coronavirus, le gouvernement nigérien tente de freiner sa propagation par la sensibilisation et le strict respect des gestes barrières. Seulement, les femmes mendiantes semblent avoir été oubliées par les pouvoirs publics et certaines organisations internationales. En dépit de la création d'un fonds de solidarité, celui-ci ne prend pas pour le moment en charge cette question de femmes vulnérables. Comment peut-on alors aider ces femmes? Nous nous sommes intéressés à la question. Voici notre reportage. Pour protéger les femmes mendiantes du coronavirus, la coordination des ONG et associations féminines du Niger a mis l'accent sur la sensibilisation et la distribution des kits de lavage des mains et des bavettes. Ce soutien, selon la présidente de la CONGAFEN, Kako Fatima, participe de la prise de conscience de ces femmes mendiantes sur le danger de la maladie.
Nous avons fourni beaucoup d'efforts en mettant un dispositif pour pallier à la lutte contre cette pandémie. Et nous avons aussi touché le ministère de tutelle, la ministre de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant. Elle nous a fourni des kits et des cartons de savon que nous avons distribués au niveau des femmes vulnérables, les femmes mendiantes et les femmes victimes de handicap de la rue.
Le 3 avril, un fonds de solidarité pour la lutte contre le COVID-19 a été mis en place au Niger. Selon Nuhu Abarchi, coordonnateur de la cellule chargée de gérer ce fonds, la prise en charge des personnes vulnérables n'a pas encore commencé.
Le fonds a été créé récemment. Nous réceptionnons surtout les dons. Et à la date d'aujourd'hui, vraiment, on n'a pas commencé encore à aller vers les ménages. Nous sommes au stade, en fait, actuellement, de réceptionner les dons. On n'est pas encore allé véritablement vers la prise en charge.
Ibrahim Amadou Abdelaziz, président de l'ONG Evaman, qui intervient dans le domaine de la malnutrition et la mendicité au Niger, estime que l'État doit se pencher sur le cas des femmes mendiantes qui sont les plus vulnérables.
Sur le terrain, nous avons rencontré surtout les femmes mendiantes. Elles demandent de l'aide alimentaire. Et vraiment, l'aide que l'État a promise, c'est pour les ménages. Je pense que l'État doit vraiment créer les conditions pour que les femmes mendiantes puissent bénéficier de cette aide aussi. Que l'État parvienne de manière significative à subvenir à leurs besoins. En tout cas, du moins pour cette maladie, ils vont rester.
Après investigation, nous remarquons que l'État du Niger n'est pas le seul à avoir oublié ces femmes vulnérables. Certaines organisations internationales qui interviennent en aide aux femmes n'ont pour l'instant pas prévu de fonds pour soutenir les femmes vulnérables dans le cadre du COVID-19. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Place à présent au Forum de la presse avec Alassane Kouzi Mahamadou.